Bonsoir à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous présenter cette édition départementale. Le comité départemental, lui aussi, de l'UMP d'Eure-et-Loire s'est déroulé hier soir à Bonville en présence de Guillaume Pelletier, tête de liste UMP au régional en Centre-Val de Loire, et des caciques euréliens du parti de droite, en premier lieu leur président Daniel Guéret, qui a insisté sur la nécessité de confier la tête de liste UMP-UDI, si cette liste d'union voit le jour, à un membre de l'UMP et non à Philippe Vigier, secrétaire national de l'UDI, comme cela pourrait être envisagé en haut lieu. Nous n'avons besoin de personne pour gagner ce scrutin, a déclaré pour sa part Jean-Pierre Gorge. Nous l'avons montré ici en Eure-et-Loire lors des élections départementales. Les accords éventuels passés avec l'UDI, ce n'est pas notre affaire. Je serai très attentif à ce sujet à l'avenir, a conclu le député-maire de Chartres. Pour sa part, Guillaume Pelletier a émis le souhait d'une liste d'union avec l'UDI, mais a-t-il aussitôt ajouté, il faut que le rapport de force électorale entre les partis soit respecté, et en Centre-Val de Loire, c'est l'UMP qui a obtenu les meilleurs résultats aux dernières élections. Sa primauté doit donc être reconnue, a précisé le nouveau chef de file de l'UMP régional, qui en a profité pour faire quelques annonces de campagne. Guillaume Pelletier souhaite ainsi créer un conseil de gouvernance articulé autour des présidents des départements, des grandes villes et agglomérations, mais aussi avec une dizaine de maires de petites communes rurales. Objectif, accélérer la réussite des grandes villes tout en favorisant le développement du monde rural. Guillaume Pelletier souhaite par ailleurs développer l'apprentissage et favoriser l'installation de médecins dans les campagnes reculées. Deux apprentis du CFA Interpro de Chartres viennent de remporter un concours national de cuisine réputé, le concours national de la meilleure sauce qui s'est déroulé du 16 au 19 avril à Paris. Émilien Galerne, apprenti cuisinier, et Camille Barbat, apprenti serveuse, ont travaillé en binôme, comme c'était demandé. Le plat qu'ils devaient confectionner, si vous êtes gourmand, ouvrez grand vos oreilles, un rable de lapro, carottes, fanes, champignons de Paris, cresson et sauge fraîche. Le concours est organisé depuis près de 20 ans par l'Association nationale des professeurs de cuisine et restaurants des CFA. Il est considéré comme l'un des plus prestigieux. En témoigne la composition du jury, Johan Leclerc, meilleur ouvrier de France, chef du restaurant La Suite à La Rochelle, Claire Verneuil, lauréate Masterchef en 2012, et Denis Courdiade, le directeur du mythique Plaza Athénée à Paris. Plus de 200 personnes ont répondu hier à l'invitation des Carmélites de Chartres à venir les rencontrer chez elles à Champfolles, une journée portes ouvertes tout à fait exceptionnelle qui a permis aux néophytes de se familiariser avec le quotidien des religieuses, un quotidien que nous déroule Sœur Nicole-Marie, supérieure du Carmel de Chartres.
Nous commençons par une petite vidéo qui représente la vie de la communauté. Et puis ensuite, il y a tout un parcours qui montre un petit peu toutes nos activités, nos lieux de vie, notre salle de communauté, notre réfectoire, notre chapelle qui termine le parcours.
Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Comment se déroule la journée d'une carmélite?
On se lève à 6h, un temps de prière d'abord à 6h20. Ensuite, on a le chant des daudes qui est suivi du petit déjeuner et de l'heure de ce qu'on appelle la lectio divina, qui est un temps de lecture de la Bible ou d'un texte spirituel, qui est suivi du travail jusqu'à la messe à 11h30. Sitôt la messe, nous avons l'heure médiane, que nous chantons en action de grâce. Ensuite, nous avons le repas avec en silence et avec une lecture, toujours le matin, à midi et le soir. Et nous reprenons le travail rémunéré à 2h jusqu'à 5h. Notre deuxième heure d'oraison, suivie des vêpres à 18h. 18h30, nous avons notre temps de récréation, c'est-à-dire notre temps de détente ensemble. On se retrouve toutes en salle de communauté pour nous donner, de partager des nouvelles, se détendre. On rit, on aime beaucoup rire. Voilà. Et puis à la suite de quoi, il y a le déjeuner. Pareil comme le déjeuner à midi, avec une lecture. Et là, le soir, en général, c'est la croix, enfin certains articles de la croix, suivi d'un petit temps de silence, là où les sœurs lisent ou voilà, peuvent se promener dans le jardin. Et notre dernier office est à 20h30, c'est un petit peu vigile, quoi, avec compli à la fin. Voilà, et l'extinction des feux à 22h, sans vérification. Hein. Chacune est libre, mais elle doit respecter le silence des autres. Voilà.
Alors, nos contemporains se diront, voilà, une règle bien, bien rigoureuse, des journées bien menées, bien remplies, mais effectivement, je vous vois très souriante, vous nous dites, nous aimons rire. Ça veut dire que voilà, dans cette rigueur, il y a l'esprit souffle, évidemment.
Oui, bien sûr que l'esprit souffle, heureusement, parce que sinon, on ne pourrait pas tenir. Hein. Et puis, la joie est importante, comme le dit notre pape François. Là, quand il y a des sœurs, quand il y a la vie religieuse, il y a de la joie. Et sans la joie, le monde est triste. Hein. Et l'humour fait partie de la santé et de la vérité aussi. Si on ne prend pas les choses avec humour, on ne peut pas vivre. Enfin, et dans les relations fraternelles, c'est très important.
Je me pose une question, je me dis, voilà, c'est la question vraiment d'un néophyte, d'un béotien, mais voilà, ce sont des journées qui se déroulent toutes pareilles. Est-ce que il arrive qu'une forme d'ennui puisse s'installer dans la vie d'une moniale, d'une religieuse?
Pourquoi pas? On est comme tout le monde, et on est fragile, on est limité, comme tout le monde. Mais là, je peux dire qu'il y a la vie commune qui peut nous aider. Et puis il y a la prière, tous les éléments de notre vie peuvent nous aider. Et puis, la petite Thérèse, elle a connu elle-même une nuit, ce qu'on a appelé une nuit de l'esprit, quoi, et qui a duré quasi jusqu'à sa mort, et elle l'a vécu, elle disait, elle exprimait ça comme si elle avait un mur devant elle, et elle disait, je crois ce que je veux croire. Ça fait partie de la vie, oui, d'avoir des moments difficiles. Ces moments difficiles nous mettent de façon particulière en communion avec tous ceux qui connaissent des situations difficiles et qui ont peut-être pas grand monde autour d'eux pour essayer de sortir de ces difficultés.
Pour être complet, je vous précise qu'il est possible à tout un chacun d'assister aux messes dominicales au Carmel de Chartres tous les dimanches à 18h. En bref, la librairie L'Esperluette de Chartres et la compagnie Jacques Crémer proposent une rencontre dédicace demain à 19h à L'Esperluette. Jacques Crémer, auteur de Un phare dans la nuit profonde aux éditions Tituli, ses propos sur le théâtre ouvrent une réflexion sur la situation et l'avenir de cette discipline artistique, notamment dans l'agglomération chartraine. Olivier Lestis et Jacques Crémer liront quelques extraits et dialogueront librement avant que les personnes présentes posent leurs questions et interviennent tout aussi librement, bien entendu. Pour finir, sachez que le concours Talents des Cités, qui récompense les créateurs d'entreprises avec 22 concours en région et un national, est ouvert. Les Talents des Cités ont déjà créé plus de 4000 emplois dans les quartiers particulièrement touchés par le chômage. Les inscriptions sont ouvertes en région centre jusqu'au 31 mai. Les candidats pourront s'inscrire avec un projet d'entreprise sur www.talentsdescites.com. Voilà, ce journal est terminé. Prochain rendez-vous de l'édition départementale, ce sera demain soir à partir de 18h15. Vous avez rendez-vous dans quelques minutes avec les infos régionales. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.
On l'attendait tant bien que mal, comme un héros sur son cheval, l'homme de l'automne. Desperado à la dérive, pour nous délivrer de la crise et de la maldonne. Il avait fait rougir octobre, avant de faire le tour du globe, l'homme de l'automne. Il avait fait passer l'hiver, loin de jadis, loin de la guerre, l'homme de l'automne. Il arrive, il passionne, il enivre, l'homme de l'automne. Il délivre, il pardonne, il arrive, l'homme de l'automne. Après l'été, les dépressions, la mendicité et l'action qui dégringole. La nature laisse tomber ses feuilles et le pays son portefeuille. On abandonne. en attendant l'homme de l'automne pour ne pas tomber dans les pommes.